franceinter.fr.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, la crédibilité de l'ONU en jeu à Alep. 50 000 personnes ont fui la ville de Syrie ces derniers jours. Situation humanitaire apocalyptique, réunion du Conseil de sécurité dans quelques heures. Les pays occidentaux peuvent-ils au moins obtenir que des secours entrent dans l'est de la ville? Vous entendrez l'un des derniers médecins encore dans ces quartiers rebelles. Fidel Castro, dernier voyage, départ imminent. Ses cendres vont quitter la Havane dans quelques minutes, direction Santiago. Nous serons en direct du Malecón dans quelques instants. L'affaire de la chemise arrachée chez Air France, 5 salariés étaient poursuivis pour violence, 2 relax, 3 condamnations à des peines de prison avec sursis. François Hollande doit-il se présenter ou renoncer? Les primaires sont-elles absolument indispensables? Qui doit représenter la gauche à la présidentielle? L'invité de ce journal sera un des députés socialistes frondeurs, Christian Paul. Il se prononce en faveur d'Arnaud Montebourg, il nous dira pourquoi. Le dossier de ce journal, les nouvelles accusations du Rwanda contre la France, 20 hauts responsables français poursuivis pour complicité de génocide. Dans ce dossier très lourd, très complexe, explication de Benoît Colomba et réaction de militaires sur place à l'époque. Les voies sur berge rendues aux piétons à Paris, le débat fait toujours rage. Lettre de plus de 150 maires de droite à Anne Hidalgo, l'élu de Paris, elle, détaille ce qu'elle va mettre à la place des voitures sur ces berges. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno.
Météo France, vous m'avez dessiné un petit soleil avec des moufles. La nuit a été très froide. Petite hausse des températures pour cet après-midi.
Oui, les températures ont encore été glacial cette nuit. On a relevé moins 5 degrés à Lille, moins 7 à Strasbourg, mais surtout moins 10 à Charleville-Mézières. Cet après-midi, les températures gagneront quelques degrés, mais n'espérez pas plus de 3 degrés à Nancy, 5 degrés à Paris-Dijon, 7 pour Lyon. Ce sera plus doux dans le sud avec 13 degrés à Toulouse et Marseille, 15 à Ajaccio et ça, 16 à Biarritz.
Ça, c'est pour les moufles. Sébastien, il y a le soleil parce que le ciel est quasiment tout bleu.
Eh oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Fini les grisailles matinales. Place au soleil pour tout le monde cet après-midi. Petit bémol sur le Languedoc qui aura encore un temps plus nuageux en raison d'entrées maritimes, mais des éclaircies arriveront à percer.
Sébastien Léas, Météo France. À la fin de cette édition, le choix cinéma d'Eva Bétan et le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud aux enchères cet après-midi. Descente aux enfers, l'expression revient de plus en plus souvent à propos d'Alep. 50 000 civils ont fui la ville depuis la fin de la semaine dernière. Thibault Lefebvre a joint via WhatsApp l'application pour téléphone mobile l'un des derniers médecins d'Alep Est, les quartiers rebelles. Écoutez le docteur Hamza Al-Kateb.
On a l'impression que le monde nous a abandonnés, la communauté internationale nous regarde et ne fait rien. C'est l'attaque la plus massive dont j'ai été témoin depuis 2012. J'ai constaté de mes propres yeux l'usage de différents types d'armes, des bombes à sous-munitions, des barils d'explosifs, des bombes au phosphore. Tous les jours, il y a de nouveaux blessés, plus de 300 en tout. Il y a aussi beaucoup de morts, des civils pour la plupart. Beaucoup d'habitants sont désormais rassemblés sur un petit territoire. Ça veut dire que chaque roquette, chaque missile blesse, tue encore plus de gens. Deux hôpitaux fonctionnent encore pour le moment. C'est très compliqué de s'occuper de 300 blessés. On est sous la menace permanente d'une attaque. On a reçu à plusieurs reprises des tirs de mortiers ou de missiles. C'est ça la situation que nous vivons ici en ce moment à Alep.
Dans quelques heures, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Voici ce que dit ce matin le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault. C'était à la sortie du Conseil des ministres à Paris entre appel à la communauté internationale et message politique au candidat de la droite à la présidentielle.
Il est temps que la communauté internationale se réveille parce que sous nos yeux, une tragédie est en train de se dérouler. La France n'a jamais manqué une seule occasion d'exprimer sa solidarité avec les populations civiles syriennes. Nous ne sommes pas les complices de Bachar el-Assad. Nous ne faisons pas preuve de complaisance à son égard. Peut-être certains en France se laissent aller, pensent que M. Bachar el-Assad protège les minorités. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est la destruction de toute une population civile dans laquelle il y a à la fois des musulmans, et puis il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des minorités ethniques. Et donc c'est ça la réalité. Donc faire preuve de complaisance à l'égard de M. Bachar el-Assad, comme je l'entends dans le débat public français, c'est prendre une très lourde responsabilité. En tout cas, ce n'est pas la position que je prendrai, parce que je crois que la conscience européenne exige de dénoncer ce massacre.
Jean-Marc Ayrault au micro de Louise Baudet. Il annonce encore la réunion à Paris le 10 décembre des pays qui refusent, je cite, une logique de guerre totale. Alors qu'est-ce qui peut se décider au Conseil de sécurité dans les heures à venir? La France défend l'idée d'un cessez-le-feu immédiat. L'ambassadeur britannique assure que l'ONU a un plan pour faire parvenir des secours aux habitants d'Alep Est, faire évacuer les blessés. Je demande, dit l'ambassadeur britannique, je demande à la Russie de faire en sorte que le régime syrien donne son accord. Début de la procession dans quelques minutes à Cuba. Il sera 14h, en principe heure de Paris. L'urne qui contient les cendres de Fidel Castro doit quitter la Havane pour une dernière traversée de l'île. 950 km direction Santiago, où l'icône et tyran de la révolution reposera. Bonjour Michel Fourneau.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la Havane sur la promenade du Malecón. Quelle ambiance alors que le dernier voyage de Fidel Castro se prépare?
Le jour se lève sur la Havane, Bruno. La petite boîte en bois qui contient donc les cendres du leader Maximo vient de partir du ministère de la Défense pour sillonner le pays vers l'Est donc pendant 4 jours. Et la ferveur ne se dément pas. Des centaines de milliers de personnes sur la place de la Révolution hier soir pour l'hommage international. Une grande partie se retrouve au petit jour ici sur le parcours de ce convoi mortuaire. Comme ces très jeunes étudiants en médecine, Jorge par exemple n'est pas rentré chez lui depuis 2 jours. Il a dormi 2 heures. On a passé la nuit ici sans dormir, sans manger.
Sans dormir, sans manger.
On est là pour se recueillir devant le commandant. On est ici parce que ce qu'on a, c'est lui qui nous l'a donné. Car ça n'est pas juste une voiture qui va passer sur le Malecón devant nous dans un instant. C'est tout un symbole, raconte Dariel, 23 ans. C'est la même caravane que quand ils ont fait la révolution. Ils sont venus de Santiago jusqu'ici. C'est la même dans l'autre sens avec les restes du commandant.
Via fie, via la révolution cubana.
La ferveur digne de tous Cubain depuis 4 jours est, disons-le, assez touchante par sa sincérité. Véronica, informaticienne d'une trentaine d'années, assise sur le trottoir avec ses petits drapeaux, explique ce qui les anime. Voir les cendres de Fidel passer en face de toi, c'est comme s'il passait, lui, en personne devant toi. C'est son esprit face à toi. Castro est mort, mais son esprit survit manifestement. C'est le bien spirituel, manifestement aussi le plus précieux de ces Cubains-là, Bruno.
Michel Fourneau, en direct de la Havane avec Laurent Macchetti. Et parmi les étapes attendues de ce voyage des cendres de Castro, celle de Santa Clara, dans le centre de l'île, où reposent les cendres de Che Guevara.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
5 octobre 2015, il y a un peu plus d'un an, siège d'Air France, un plan de restructuration est présenté au personnel. Contexte tendu, cela fait de longs mois que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les employés de la compagnie. Le ton monte et même plus que ça, des salariés manifestent devant les locaux, une grille est forcée, mouvement de foule. Et deux cadres échappent de peu à une correction en règle. Ils escaladent un grillage pour s'enfuir. L'un a la chemise arrachée, l'autre est carrément torse nu. Les images font le tour du monde. On parle désormais de l'affaire de la chemise arrachée, symbole d'un dialogue social en lambeaux en France. 14 mois plus tard, 5 ex-salariés jugés pour violence. Jugement ce matin, Abdelhak El Idrissi, 2 relax et 3 peines de prison avec sursis de 3 à 4 mois.
C'est un jugement de Salomon qui a été rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny, selon l'un des avocats des prévenus. Les salariés ne savent pas tous s'ils vont faire appel. Vincent Martinez, par exemple, le délégué du personnel licencié suite aux violences, a écopé de 3 mois de prison avec sursis et il avait peur que la dimension politique prise par cette affaire ne pèse sur le jugement.
On avait quand même des craintes au tout début de l'histoire avec tout l'emballement politique qu'il y a eu autour de ça. Pour que M. Valls, le Premier ministre, débarque en nous insultant de voyous, en disant qu'il faut des sanctions exemplaires. On pouvait s'attendre un peu à une même sanction dans le même style que les copains de Goodyear. Donc je pense qu'on aurait pu avoir bien pire.
Du côté d'Air France, l'avocat de l'entreprise, Baudouin de Moucheron, a exprimé sa satisfaction à l'issue du jugement.
La marque Air France a été atteinte par ces faits totalement inacceptables. Ce qui nous importe, c'est la reconnaissance de culpabilité de la quasi-totalité des prévenus qui étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel. Aujourd'hui, on considère du côté d'Air France qu'on peut tourner la page. L'affaire a été jugée et elle a été bien jugée.
Toutefois, cette affaire n'est pas totalement terminée. Air France est poursuivie par la CGT pour immixtion dans un conflit social et délit d'entrave. L'audience aura lieu le 9 décembre. À Bobigny, Thomas Robin, Abdelhak El Idrissi, France Inter.
Comment se fait-il que les voisins n'aient rien dit, qu'ils n'aient prévenu personne? C'est la question. Plus de 3 jours après la mort du petit Tony, il avait 3 ans, mis en examen dans cette affaire, le compagnon de sa mère soupçonné d'avoir régulièrement battu l'enfant et la maman soupçonnée au moins de ne pas avoir dénoncé son compagnon. Tony est mort samedi soir aux urgences. Le corps était couvert de bleu. Cela se passait dans un immeuble de Reims pendant de longues semaines. Le procureur Mathieu Bourrette a lancé un appel à témoins ce matin et au-delà de cela, vous allez l'entendre, message général dans des cas comme celui-ci.
Je souhaite, pour pouvoir faire toute la lumière sur cette affaire, que toute personne qui a pu, au cours de ce mois, mois et demi, avoir connaissance, conscience d'éléments, puisse les faire connaître au service de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne. Ça, c'est pour ce dossier. Plus généralement, j'ai envie de dire, faites le 17, appelez la police, dites que vous avez constaté ou vu quelque chose. Après, il appartiendra au service de police ou de justice de faire leur travail, il nous appartiendra de faire notre travail. Je crois que la sécurité est vraiment l'affaire de tout le monde. Quand elle touche les mineurs, la protection des mineurs doit être encore plus dans les consciences de chacun.
Un propos recueilli par Sophie Constanzer, une marche blanche en mémoire du petit Tony a lieu ce soir à 18h à Reims. Dans l'actualité judiciaire encore, le verdict attendu aujourd'hui au procès de deux supporters du PSG. Sont-ils responsables de la mort d'un troisième supporter d'un groupe rival? 6 ans de prison ont été requis contre les deux. Nous en venons à la page politique de ce journal avec l'invité du Trésor. Bonjour Christian Paul.
Bonjour.
Député de la Nièvre, vous êtes l'une des figures des frondeurs au sein du Parti Socialiste. Petite question maintenant qu'on connaît le candidat de la droite, François Fillon. Quand vous voyez son programme, vous dites pas que vous avez cogné un peu trop fort sur le gouvernement au fil des années?
Mais vous savez, si nous avons été parfois critiques, souvent aussi force de proposition, c'est parce que nous voyons monter une déception très forte depuis 2014 essentiellement, et qu'il ne fallait pas rester inerte. Nous avons demandé une réorientation de la politique. Nous avons demandé à François Hollande une autre politique économique. Nous avons demandé de respecter les engagements. Mais pour ma part, je n'ai jamais confondu François Hollande et Nicolas Sarkozy, et je fais bien la différence, en particulier ces jours-ci. Oui. Entre la droite et la gauche. François Fillon, c'est l'homme d'une révolution libérale et conservatrice à la française. Alors, c'est pas Donald Trump, mais ça ressemble quand même un peu à Margaret Thatcher au début des années 80.
Donc, il y a plus qu'une différence de degré entre ce qu'a pu faire Manuel Valls au pouvoir et ce que propose François Fillon.
Je crains que quelques-unes des lois qui ont été proposées ces dernières années, je pense en particulier à la loi travail, aient ouvert la brèche, en quelque sorte, à une politique ultra-libérale. Évidemment, d'une ampleur et d'une violence beaucoup plus forte à l'égard des salariés, mais je pense que nous avons, et je le regrette profondément, nous avons affaibli les défenses immunitaires de la gauche française.
Alors Christian Paul, vous vous prononcez ce matin en faveur d'Arnaud Montebourg. Pourquoi ce choix, tout simplement?
D'abord, je veux rappeler qu'il y a une primaire à gauche.
Oui, et indispensable.
Elle est indispensable. Sinon, c'est la fragmentation générale. La gauche.
Personne ne peut s'en affranchir.
Mais je pense que de Mélenchon à Macron, on devrait vraiment se poser la question. On peut pas craindre le retour des années 30 avec le Front National ou un nouveau 21 avril, c'est-à-dire l'absence, l'effacement de la gauche française dès le premier tour de l'élection présidentielle et considérer qu'on peut s'exonérer de cette primaire. Donc je m'engage résolument dans cette primaire. Je la crois indispensable, d'abord parce que la droite a lancé un défi au peuple de gauche avec une primaire qui globalement a réussi, comme nous avions d'ailleurs réussi cette primaire. Alors pourquoi maintenant? Parce que là, c'est vrai, la droite est désormais en ordre de bataille. La gauche prépare cette primaire 22 et 29 janvier 2017.
Les candidats doivent se prononcer avant le 15 décembre.
Les candidats peuvent déposer leur candidature dès demain. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et mon soutien, mon parrainage va à Arnaud Montebourg. Non seulement parce que j'ai apprécié ses qualités politiques depuis plus de 15 ans. Vous savez, Arnaud Montebourg, c'est une voix forte au sein de la gauche. Et c'est une voix forte pour des causes justes. Ça, c'est la première raison. Ensuite, parce que je considère qu'il y a dans son programme une vraie capacité à renouer avec la France du travail qui aujourd'hui nous quitte par déception. Et la question du redressement économique, qui était notre cheval de bataille en 2012, doit être également au cœur de l'élection présidentielle. Cette élection présidentielle, ça peut pas être une croisade identitaire, comme l'a essayé Nicolas Sarkozy. Ça n'a même pas marché d'ailleurs à droite. Il ne faudrait pas qu'à gauche, on soit exclusivement sur ces questions-là.
Christian Paul, ça signifie que vous ne souhaitez pas, au fond, qu'il y ait une candidature qui représente proprement ce courant des frondeurs. Je pense à Marie-Noëlle Lienemann.
Mais vous savez, une élection présidentielle, ça n'est pas simplement
pas
une affaire de tribus socialistes. Une élection présidentielle, il faut parler à tous les Français. Il faut renouer, je l'ai dit, avec la France du travail. Il faut être capable de rassembler. Je pense que la candidature d'Arnaud Montebourg, elle vient du cœur de la gauche. Elle est au centre de la gauche, donc elle doit pouvoir rassembler très largement. Mitterrand dans une élection dont on sait bien qu'elle sera probablement pour les socialistes la plus difficile depuis les débuts de la Ve République.
Je voudrais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon sur importance ou pas de la primaire.
Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la primaire, monsieur Mélenchon ? Hein ? Parce que vous savez, il y a une martingale. Si vous allez à la primaire, ça y est, vous avez gagné. Oui, mais si je la gagne pas ? C'est pas une solution, cette histoire. La solution, la seule qu'on ait, c'est de convaincre. Ne croyez pas que vous allez convaincre des millions de Français avec une combine. Ne croyez pas que c'est en allant participer à une vaine agitation qui va durer 3 semaines, où les gens vont jeter des noms d'oiseaux et regarder dans les sondages qu'est-ce qui a la plus grande chance d'être le moindre mal, que c'est avec ça que vous allez convaincre des millions de gens qui n'en peuvent plus. Quelqu'un a dit « il faut revenir à la normale ». Non, c'est la normale qui est insupportable.
La différence entre Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon, quelle est-elle pour vous, Christian Paul ? Au-delà du fait primaire ou pas primaire, sur le fond.
Mais d'abord, c'était important. Je pense qu'ils ont un point commun, ils sont offensifs. La primaire, pour nous, c'est pas le moindre mal. On vient de vivre un quinquennat très défensif, où les ambitions ont été laissées de côté, où les engagements n'ont pas été tenus. Donc je pense qu'ils ont tous les deux une volonté de réveiller vraiment au sein du peuple français ces valeurs de gauche authentiques. Moi, je crédite Arnaud Montebourg d'une capacité à rassembler largement et d'une capacité aussi à animer ce redressement économique en mobilisant le pays qui est aujourd'hui vraiment la cible essentielle pour ceux qui dirigeront le pays après 2017.
François Hollande doit-il renoncer à se présenter ?
François Hollande s'est auto-empêché. Il n'a pas créé les conditions politiques.
Donc il doit renoncer.
Mais c'est à lui d'en décider, certainement pas à moi, mais je mesure bien aujourd'hui qu'il atteint des niveaux de popularité historiques.
Mamba, historique Mamba.
Historique, sous la Ve République, vous avez dit les choses justement.
Christian Paul, soutien d'Arnaud Montebourg dans la course à la primaire et à la présidentielle, était l'invité de France Inter. Merci.
Merci.
Le journal de 13h. France Inter.
Plus de 20 ans après le génocide au Rwanda, les autorités politiques et la justice sur place soupçonnent toujours la France d'avoir eu un rôle dans ce génocide, ce qui provoque depuis 20 ans des haut-le-cœur à Paris. Le génocide avait causé la mort de plus de 800 000 personnes. Nouvel épisode cette semaine, le Rwanda ouvre une enquête sur le rôle de 20 militaires et hauts fonctionnaires français en poste à l'époque. Alors nous allons nous arrêter un peu longuement sur cette affaire très complexe, évidemment très sensible. D'abord, de quoi sont accusés les 20 responsables français de complicité de génocide? Les détails avec Benoît Colomba.
Cette enquête constitue une nouvelle étape dans la guerre froide diplomatique entre Paris et Kigali, avec en arrière-plan l'ombre du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. La France a joué un rôle extrêmement trouble dans les années 90 au Rwanda, en soutenant militairement et politiquement un régime extrémiste Hutu engagé dans une logique génocidaire, puis en protégeant des génocidaires pendant l'opération militaro-humanitaire baptisée Turquoise. C'est l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana le 6 avril 94 qui a donné le signal d'un génocide préparé de longue date. L'enquête française sur cet attentat met d'abord en cause des proches de l'actuel président rwandais, Paul Kagame, avant de s'orienter plutôt vers des extrémistes Hutus. Kigali souhaite aujourd'hui la fin de ces investigations, mais la volonté des juges français d'entendre un ex-officier rwandais accusant l'actuel président rwandais a remis le feu aux poudres, avec la menace brandie par Kigali d'une rupture des relations diplomatiques.
Voilà pour l'exposé des reproches. Alors, quelle réaction Benoît Colomba est parvenu à joindre deux militaires qui étaient sur place à l'époque. D'abord, le colonel Jacques Hogard, il préside l'association qui défend le rôle des soldats français au Rwanda.
Pour moi, il s'agit d'une accusation calomnieuse. La position de la France à l'époque a été de soutenir un régime légal et légitime en faisant pression sur lui pour qu'il évolue, qu'il sorte de l'unipartisme et qu'il aille vers le multipartisme, qu'il aille vers la démocratie, etc. À partir de là, les choses ont dérapé, comme on le sait. Franchement, je trouve que c'est une injustice absolue que de mettre la France au banc des accusés dans cette affaire. La France a fait ce qu'elle pouvait, comme dans plein d'autres pays d'Afrique. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des erreurs politiques ici ou là. Mais globalement, accuser la France de génocide, c'est à tomber par terre et à mourir de rire, en fait.
Voilà ce qui rejoint la position officielle de la France, répétée année après année, que le déploiement de ces soldats français a permis de sauver des milliers de vies. Autre regard, celui d'un ancien officier, lui aussi présent sur place à l'époque, mais davantage prêt à un examen de conscience. Il s'appelle Guillaume Ancel.
Nous, Français, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé au Rwanda il y a 22 ans et quel rôle nous avons joué dans le génocide des Tutsis qui a fait 1 million de morts. tant qu'on en restera à une version officielle qui a été verrouillée par la mission parlementaire d'information à l'époque, on ne pourra pas répondre sereinement à cette question. Il faut accepter que dans une démocratie, les citoyens puissent demander des comptes à leurs élus sur ce qu'ils ont décidé et fait à cette époque. Ce qu'a fait la France dans cette opération turquoise, dans le soutien à un gouvernement qui a organisé le génocide, pose plus que des questions. Et tant que ce débat n'aura pas eu lieu, on s'exposera à des critiques et surtout à des mises en accusation comme celle du gouvernement rwandais.
Et on relèvera encore que l'offensive judiciaire du Rwanda intervient alors que se tient en ce moment à Paris le procès en appel d'un des génocidaires rwandais, dossier constitué par Benoît Colomba. Cette information de dernière minute aux États-Unis, le ministre des Finances de Donald Trump, ce sera Steven Mnuchin, un ancien de Goldman Sachs aux finances pour l'homme qui voulait rompre avec le système. À Paris, le débat sur la piétonnisation des berges de la Seine, rive droite. Ce débat dépasse le seul petit cadre parisien. Il y a d'un côté la maire de la ville qui dit penser à l'avenir, écologie, lutte contre la pollution, nouveaux modes de transport et de vie dans les grandes cités. De l'autre, des opposants qui répondent vie quotidienne plus compliquée, fausse bonne idée, la pollution ne fait que se déplacer. Deux nouveaux épisodes à signaler. D'abord, cette lettre de 168 maires d'Île-de-France, essentiellement de droite, lettre à la maire de Paris, évidemment pas très aimable. Écoutez par exemple le maire de Versailles, François de Mazières.
On ne peut pas avoir une ville, la ville-centre, qui résonne de façon indépendante des problèmes des villes périphériques. À Versailles, nous avons une véritable autoroute urbaine qui s'appelle Avenue de Paris, qui est face au château. Imaginez que moi, je fasse la même chose qu'à Paris. Au lieu des quatre voies de chaque côté, il n'y en aura plus qu'une. Si je fais ça, je crée d'énormes problèmes pour toutes les villes périphériques. Mais Paris ne s'est pas posé la question. Je pense que Paris aurait dû faire une consultation de ses voisins immédiats et peut-être faire en fonction aussi des améliorations portées au transport en commun. Car aujourd'hui, les transports en commun marchent pas bien. Il suffit d'écouter les gens de banlieue pour le savoir.
Et cette récrimination des maires franciliens vient après la plainte déposée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, recours devant le tribunal administratif pour contester la piétonnisation des berges. Alors, est-ce mépris ou est-ce constance? En tout cas, Anne Hidalgo poursuit son projet. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Qu'y aura-t-il à la place des voitures sur ces fameuses berges rive droite? Des piétons et des cyclistes, d'accord, mais encore des activités, des commerces. La mairie en a dit plus hier, Élodie.
De la culture à la place des voitures, ce serait un bon slogan pour la mairie de Paris qui a en effet annoncé les 6 premiers projets pour ces berges. Alors il faut s'imaginer au bord de l'eau, passer d'un concert à un atelier de lutte contre le gaspillage alimentaire, faire une petite pétanque, acheter un souvenir équitable avant de se restaurer dans un café solidaire qui ne vendra bien sûr que des produits locaux. Bref, vous l'avez compris, ces berges seront une vitrine, l'un des atouts phares d'Anne Hidalgo qui rêve de faire de Paris la capitale mondiale de l'économie solidaire. En revanche, pour tous ses détracteurs, ces projets qui ne verront le jour qu'à l'été 2018 risquent fort de résonner comme l'exemple type de cette boboisation parisienne, très loin des préoccupations des habitants de petite et grande couronne qui galèrent chaque jour dans les embouteillages monstres.
Merci Élodie Forêt. Comme chaque mercredi, à peu près à cette heure-là, Eva Béton nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Eva.
Bonjour.
Mercredi, jour des sorties cinéma, votre choix cette semaine, Les Enfants de la Chance de Malik Chibane. Ça se passe en 1942, au fond, quand une hospitalisation permet d'échapper au camp de la mort. Alors, c'est toujours un peu agaçant, mais en même temps, c'est le cas d'après une histoire vraie, Eva.
Et c'est important. C'est parce qu'un jeune garçon a volontairement poussé dans un escalier un enfant portant une étoile jaune que cet enfant s'est retrouvé à l'hôpital et y a passé toute la guerre parce qu'il s'est trouvé dans cet hôpital des gens bien qui l'ont protégé. Les Enfants de la Chance, oui, parce que la logique de l'extermination était qu'ils meurent tous. L'occupation vue par un regard d'enfant. Tout le film se passe dans cet hôpital pour enfants, avec les nouvelles des parents qui l'attendent et qui ne viennent jamais. Malik Chibane, c'est le réalisateur d'Hexagone, de 12 France. Il a parlé schématiquement, on va dire, d'un cinéma urbain, un cinéma de la banlieue. Il a filmé toujours sincèrement. Il filme ici de tout cœur. Il dit de belles choses. Il dit qu'il est fier d'avoir fait ce film, que c'est un acte de fraternité. Il dit qu'il a reconnu des similitudes entre l'enfant Maurice Grossman et lui. Il dit que c'est un film d'un enfant d'immigré algérien, lui, sur un enfant d'immigré polonais, Maurice. C'est donc un cinéaste français, Malik Chibane, qui feuillette une page de l'histoire de France qui nous concerne tous, il le dit, y compris les enfants d'immigrés.
Je suis convaincu que la Shoah, l'extermination d'une population par rapport à son origine religieuse, elle protège tous les enfants d'immigrés, petits-enfants d'immigrés. La commémoration, l'acte de se rappeler, de transmettre le flambeau à des nouvelles générations, ça permet d'éviter le grand dérapage, de pas franchir la ligne rouge. Je vous le dis, l'extrême droite française, avec ou sans la Shoah, c'est pas la même. il y a cette ligne rouge qui a été franchie. Elle ne pourra plus l'être. Et donc, de facto, elle protège les plus faibles. Oui, la Shoah, ce crime contre l'humanité, c'est notre patrimoine à tous.
Son film devrait être montré dans les écoles. Il ira lui-même le présenter dans la banlieue où il a vécu. Maurice Grossman a perdu toute sa famille à Auschwitz, à l'exception d'une tante qu'il a élevée. Il a aujourd'hui 86 ans. Et si il nous écoute, on lui dit bonjour, monsieur Grossman.
Les enfants de la chance, c'est au cinéma cette semaine. Eva Béton, vous qui savez tout du cinéma, où était Martin Scorsese ce matin?
Au Vatican.
Gagné. Pourquoi?
Pour montrer,
je vais vous avoir, non?
Oui. Voilà, pour montrer à des évêques, il a fait un film sur lequel il travaille.
Silence, voyage de deux jésuites au Japon, 17e
Exactement.
Siècle, avant-première hier au Vatican et audience privée avec le pape ce matin et la sortie du film en France l'année prochaine.
Février, je crois.
Absolument, enfin. Vous êtes imprenable. Allez, on termine avec le revolver le plus célèbre de l'histoire de la littérature française. En vente, aux enchères, Lila Lefebvre, c'est l'arme avec laquelle Verlaine a tiré sur Rimbaud.
Un revolver de calibre 7 mm, comme neuf. En 150 ans, il n'a tiré que deux balles. C'était le 10 juillet 1873. Sous une chaleur étouffante, Arthur Rimbaud vient retrouver à Bruxelles un Paul Verlaine désespéré. Jean-Pierre Guénaud, auteur du roman Verlaine emprisonné.
Ce jour-là, Verlaine va à l'armurerie Montigny du centre de Bruxelles. Il achète ce revolver Le Faucheux pour 23 francs.
Et retrouve Rimbaud pour déjeuner. Ils boivent beaucoup d'absinthe, puis le ton monte. Verlaine sort son revolver.
Et c'est là que Verlaine va tirer deux coups de revolver sur Rimbaud. Un coup va partir dans le mur, l'autre va simplement égratigner le bras de Rimbaud.
Paul Verlaine sera emprisonné 2 ans suite au procès de son homosexualité plus que du tir.
L'arme du crime, elle, était restée chez l'armurier.
Isabelle Caniou, experte chez Christie's.
Une employée se rappelle avoir eu la police qui a rapporté le pistolet de Verlaine.
Dans les années 1980, l'armurerie Montigny ferme et ses propriétaires offrent l'arme à leur comptable qui la fera expertiser il y a une dizaine d'années.
La seule chose qui nous manque, c'est une photographie du registre dans lequel figurait le pistolet dans les archives de la police belge.
Mais les analyses balistiques suffisent à authentifier l'arme qui ne devrait pas partir à moins de 50 000 euros.
Voilà, les enchères, c'est aux alentours de 18h ce soir chez Christie's, avenue Matignon à Paris. Un mot encore pour vous dire que le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, juste à côté de Paris, ouvre aujourd'hui. C'est jusqu'à lundi prochain, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et c'est payant uniquement à partir de samedi pour les adultes. Et puis cette question, qui est capable de réunir en un même lieu pour une soirée 100 des plus grands scientifiques français? La réponse, c'est France Inter et c'est encore plus précisément La Tête au Carré, l'émission scientifique de votre radio préférée qui célèbre ses 10 ans ce soir avec une émission exceptionnelle avec donc la crème de la science rassemblée par Mathieu Vidard. Rendez-vous entre 20h et 22h et La Tête au Carré au quotidien. C'est à 14h, autrement dit, juste après le journal de 13h, juste après la marche de l'histoire qui arrive dans un instant. Mazette, quel programme! Belle journée à tous!